Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Au moment de dessiner un fleuve sur la carte, nous prenons notre plus beau crayon bleu et nous traçons une longue ligne sinueuse. Et maintenant viennent les routes, les chemins, les sentiers, un crayon noir fait l'affaire. Ici, un calvaire, une croix au bord de la route, là, une chapelle. Tiens, pour le champ de blé, mettons du vert, ou pourquoi pas du jaune, si nous sommes en été. Est-ce qu'un simple rond vert suffit pour signifier un arbre? Il manque le tronc, les branches, le feuillage, autant dessiner l'arbre en entier. Et pour le château qui domine le paysage, ce serait dommage de le représenter vu du dessus et de perdre ses tours, ses fenêtres, ses portes et ses mâchicoulis. La représentation du monde n'est pas une chose aisée. Ceux qui s'y sont attelés au Moyen-Âge, à la Renaissance, ont fait des choix. Ils ont regardé les paysages pour les transcrire sur un parchemin ou sur du papier. Ils ont tâtonné, inventé, imaginé. Ils ont surtout créé, car ce sont des artistes. Les normes de représentation cartographique n'étaient pas encore fixées et ils avaient carte blanche. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons eu l'esprit révolutionnaire. 4 émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Vous pouvez nous retrouver aussi sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire pour avoir l'actualité de l'émission et l'actualité de la recherche. Mais aujourd'hui, nous avons plutôt l'esprit Renaissance, Moyen-Âge Renaissance. Oui, quand les artistes dessinaient des cartes avec de sublimes représentations du monde, c'est quelque chose d'exceptionnel pour une exposition aux Archives Nationales sur le site de Paris, à l'hôtel de Soubise, jusqu'au 6 janvier 2020, quand les artistes dessinaient les cartes, vues et figures de l'espace français, Moyen-Âge et Renaissance. Nous allons en parler avec vous, Juliette Dumazy-Rabineau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université d'Orléans. Et avec vous, Camille Serchouk. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeure d'histoire de l'art. C'est intéressant, parce que nous avons de l'histoire de l'art à la Southern Connecticut State University, c'est à New Haven, dans l'état du Connecticut aux États-Unis. Vous représentez l'Amérique aujourd'hui, Camille. Et puis, faut citer, qui n'est pas avec nous ce matin, mais Nadine Gastaldi, qui elle est conservatrice et qui est également commissaire de cette exposition. Donc là, nous avons pour cette exposition l'histoire de l'art et les conservateurs. Mais en fait, tout ça, c'est le même monde, c'est la même réflexion sur l'étude du passé. Et puis, en deuxième partie d'émission, nous parlerons d'un projet de série, autour des derniers Valois, de Catherine de Médicis et de la Saint-Barthélemy, avec Jérémy Ferrer-Barthomeu, un projet assez fou. Comment représenter les guerres de religion? Aujourd'hui, on sent bien l'écho à l'actualité. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire, Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous partons à la rencontre de Monsieur Dalander. Monsieur Dalander est ingénieur à l'Institut Géographique National. Nous sommes le 26 mars 1956 et il explique à la radiodiffusion française à quoi sert son institut, l'Institut de Géographie Nationale.
L'Institut Géographique National fait en ce moment un très gros effort pour faire connaître ses productions dans les milieux scolaires et permettre ainsi un enseignement plus concret de la géographie. C'est la raison pour laquelle il participe au Salon de l'équipement scolaire.
Institut Géographique National, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet organisme? Quelles sont ses productions?
L'Institut Géographique National, ou plus simplement l'IGN, est l'organisme officiel chargé de dresser et publier la carte de France et de l'Union française. Pour cela, il utilise des photographies aériennes verticales prises par ses escadrilles spécialisées, dotées d'avions puissants et à grand rayon d'action. Ces avions photographes exécutent des missions qui comportent des bandes régulières à recouvrement stéréoscopique à partir desquelles des appareils de restitution complexes dressent la carte de France au 20 millième et la carte d'outre-mer au 50 millième.
Nous étions en 1956 et l'Institut Géographique National disposait d'avions puissants pour réaliser ces cartes. Mais il faut le dire, l'Institut Géographique National était tout jeune, il avait à peine 16 ans. Voilà pourtant des siècles que les hommes veulent représenter leur monde et c'est ce qui vous a intéressé, c'est ce qui nous intéresse aussi pour l'exposition aux Archives Nationales, donc sur le site de Paris, quand les artistes dessinaient les cartes et déjà dans le nom, le titre donné à cette exposition, il y a ce mot qui tout de suite interroge les artistes. Les cartes du Moyen-Âge, du XVIe siècle, ne sont pas des cartes réalisées par des spécialistes de la cartographie, elles le sont par des artistes, mais je vois que vous me regardez avec des grands yeux parce que vous avez envie de dire « mais déjà, on ne disait pas des cartes ». On disait quoi? On disait des figures, c'est ça?
Oui, alors on utilise davantage dans les sources de l'époque le terme de figure. Et c'est vrai qu'on a aimé, on a choisi de garder ce terme parce que nos termes à nous, de cartes, de plans, finalement, s'accordent assez mal avec ces documents qui sont hybrides et qui s'apparentent autant à des cartes qu'à des vues en perspective, des vues parfois à vol d'oiseau, des dessins aussi. Et donc, c'est des documents assez inclassables. Et du coup, on a préféré garder ce terme de figure. Mais à l'époque, il existe aussi le terme de portrait. Alors, portrait au sens de dessin au trait. On utilise aussi le terme de Tibériade, par exemple. Donc, il y a des mots assez variés. Bon, nous, on a choisi ce terme conserver ce terme de figure. Cela dit, ce sont quand même des cartes, puisqu'il s'agit bien de situer des lieux. Mais c'est une cartographie visuelle. Hein, c'est-à-dire qu'on nous... représente les lieux tels qu'on les verrait si on était sur place.
C'est l'élément essentiel à souligner sur la manière dont étaient réalisées ces cartes. Camille Serchouk, on parle d'artistes qui faisaient ces cartes. Il y a vraiment cette idée de représentation, c'est-à-dire que l'artiste se déplaçait, se mettait sur un point du paysage et regardait, essayait de transcrire ce paysage. C'est bien cela ?
Oui, c'est exactement ça. Alors, à l'époque... quand on a eu besoin de quelqu'un pour dresser une carte, on a choisi un peintre parce que c'était le peintre qui avait l'expertise du dessin, de la perspective. Et alors, il pouvait représenter le monde devant lui exactement comme on le voit.
C'était vraiment ça l'idée, c'est comme on le voit avec cette question majeure. Et c'est vrai qu'elle est presque évidente. Notre esprit est complètement formé aujourd'hui par toutes les cartes que nous avons vues, que nous voyons sans cesse, ne serait-ce que sur nos téléphones portatifs. On regarde des cartes, nous savons qu'un trait bleu est un fleuve, qu'une route est représentée ainsi et que les bâtiments sont représentés du dessus. Mais effectivement, quand on se trouve face à un arbre ou face à un château, il est difficile de le représenter. Le choix qui est fait, en fait, c'est de le dessiner. C'est tout simplement ça. Il dessine les châteaux. C'est toujours émouvant d'ailleurs. On voit le bâtiment.
Oui, oui, on voit des détails de l'architecture, on voit ce qu'on peut reconnaître. Parce que ces cartes servent aux usages ponctuels et souvent pour les procès. Alors, on a les deux parties qui se disputent autour d'un territoire, et il fallait s'accorder là-dessus. Alors, la carte remplaçait la visite au lieu et... En ce cas-là, autour de la table, les parties, souvent les seigneurs, devaient reconnaître leur terrain. Alors, ces détails, l'importance de l'exactitude est super important dans ce cas-là.
L'arbre imposant, la croix à tel endroit, telle pierre, c'était des repères. Vous venez de le dire, hein, Camille Serchouk, il y a la volonté de créer des cartes dans un contexte de procès. Les cartes que nous voyons... Moyen-Âge, on va dire fin du Moyen-Âge, 14e siècle, et puis tout le 16e, la Renaissance. Ces cartes-là avaient vraiment, non pas une volonté, comme nous pouvons l'imaginer, de nous guider dans le territoire pour aller d'un point A à un point B. Elles avaient une autre utilité, ces cartes-là. Hein. C'était vraiment, on va dire, des cartes politiques ou juridiques, mais c'était une utilité vraiment concrète. Voilà. Julière Dumazy, Rabineau.
Une utilité ponctuelle liée à des circonstances particulières. Alors c'est vrai que de très nombreuses de ces cartes ont été faites pour des raisons juridiques, judiciaires. Donc par exemple des seigneurs qui se disputent sur leurs limites de juridiction. C'est le cas de la plus ancienne qui date des environs de 1312 et qui est liée à un conflit sanglant entre le seigneur d'Albi et le seigneur de Puygouzon qui est un petit village à côté. Et ils se disputent sur leurs limites de juridiction. Alors c'est très important la juridiction parce que c'est le pouvoir sur le territoire. Il ne s'agit pas de laisser son voisin empiéter sur sa juridiction. Donc il y a eu des morts dans cette affaire. Et donc c'est sans doute pour ça qu'on a dressé cette carte et on a fait appel à un artiste pour dépeindre les lieux. Et encore aujourd'hui, on peut reconnaître très bien les chemins, les lieux, les toponymes qui sont indiqués. Bon, donc ce sont des cartes utiles, des cartes faites d'ailleurs ad hoc. Hein, quand on en a besoin, eh bien on fait une carte. Alors il y a aussi des cartes faites pour des aménagements et des travaux. que ce soit des aménagements de rivières, et c'est comme ça qu'on a des rouleaux qui montrent des rivières d'une manière magnifique. Hein. On a le rouleau, par exemple, de l'Aa, qui fait plus de 3 mètres de long et qui montre cette rivière aux environs de Saint-Omer. On a des aménagements aussi de fortifications. Il y a aussi des plans de bataille. Et puis, il y a aussi des vues faites à des fins politiques, c'est-à-dire de célébration, soit d'une principauté, soit d'une ville aussi, avec des plans, les premiers plans de ville au XVIe siècle, faits pour montrer finalement la beauté de la ville, toutes ses richesses, ses clochers. Et voilà,
c'est magnifique, hein, parce qu'il faut souligner la multitude de représentations du monde possible. Vous avez évoqué la taille de certaines cartes, elles sont imposantes, hein, on est sur les 5 mètres, c'est vraiment des documents majeurs. Puis après, il y a la toute petite carte qui peut être griffonnée dans un manuscrit, notamment au moment d'un procès. Il y a vraiment une ampleur énorme sur les possibles autour de ces cartes. Ça doit être extrêmement difficile à manier, je ne dis pas à manier de manière physique, quoique ça l'est déjà, à manier intellectuellement. Elles peuvent être dures d'approche, ces cartes. Vous, dans l'exposition aux Archives nationales, elles sont recontextualisées, elles sont mises en situation, donc on les comprend de manière très simple, mais elles diffèrent toutes, en fait. Il n'y a pas de normes.
Non. Oui, alors, ce sont des cartes manuscrites. En exemplaire unique, ou parfois il peut y avoir une copie, mais bon. Donc ce sont vraiment des documents uniques et qui ont une forme propre, une forme différente à chaque fois, ne serait-ce que dans le format, effectivement. Alors, il faut rappeler qu'elles sont faites sur du parchemin. Le parchemin, c'est de la peau de bête. Et donc, il a un contour, le parchemin, en général, irrégulier, mais les artistes se servent de ce format assez libre, finalement, pour ensuite placer les éléments. Parfois, ils utilisent donc un rouleau. Donc ça, c'est notamment pour les plans qui représentent des rivières, des vallées. Ils vont finalement mettre à profit toutes les possibilités de ce support. Et puis, il faut aussi expliquer, alors dans l'exposition, on présente la plupart des cartes de manière verticale, hein, contre une cloison. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à regarder comme ça, mais il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, elles étaient posées sur une table. Et c'est ce qui permet d'ailleurs d'avoir des cartes qu'on peut lire avec plusieurs sens de lecture. Alors ça, c'est curieux, quand on voit ces cartes la première fois, on s'étonne de voir des arbres à l'envers, la tête en bas, des maisons aussi dessinées à l'envers. Mais c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs sens de lecture, parce qu'on tournait autour de la table. Et comme a dit Camille aussi, c'était des plans de justice et les parties opposées se disputaient, hein, autour de la table, finalement, en commentant la carte.
Et avec beaucoup d'empirisme, en fait, dans la construction de la carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de cartographie. Chacun essaye de construire sa carte telle qu'il l'imagine, hein, c'est bien ça?
Exactement. Alors, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de métier de cartographe à cette époque. Alors, il y a des peintres qui travaillent comme ils travaillent normalement sur le projet. Alors, chacun prend le format qui est adapté pour le procès même. Alors, soit la taille, soit le support, soit la couleur.
Et à partir de là, on a tous les possibles. Je pense notamment pour la représentation du relief, extrêmement dur à représenter une colline ou une montagne. Tous les choix sont faits, en fait. On peut voir sur la carte les deux versants aplatis, ou on peut voir comme un petit tas dessiné. Oui. Ce sont des choix artistiques qui correspondent, en fait, à la réalité de ce moment-là, fin Moyen-Âge, donc 14e siècle, on va dire, et puis 15e, et puis 16e, la Renaissance. On voit dans ces cartes aussi l'évolution du regard de l'artiste.
Ah oui, on voit aussi la croissance de l'importance du paysage comme sujet. Alors vraiment, on n'a pas de paysage pur dans la peinture, ni en France ni ailleurs, avant vraiment le milieu du XVIe siècle. Mais on se demande si l'intérêt des peintres pour cette cartographie n'avait pas d'effet pour effectuer cette croissance dans la peinture.
Et d'ailleurs, la relation entre l'artiste et la carte permet, une fois que les éléments du paysage sont placés, peut-être d'ajouter certaines choses. Et cette relation entre la carte et l'artiste est dure à mettre en onde à la radio, sauf que parfois, il y a une chance extraordinaire, c'est quand André Dusselier lit du Franz Kafka, c'est la lettre au père, ça a été enregistré en 1997.
Parfois, j'imagine la carte du monde déployée devant moi et toi étendue en travers d'un bout à l'autre. J'ai l'impression alors que seules peuvent entrer en ligne de compte pour ma vie les régions que tu ne recouvres pas ou celles qui ne sont pas à ta portée. Et telle est l'image que je me fais de ta grandeur, qu'elles ne sont ni nombreuses ni très consolantes et surtout, le mariage n'est pas du nombre.
Ah, la carte du monde alors, par Kafka, où le monde devient un être humain. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à ces représentations au Moyen-Âge et à la Renaissance de l'espace français, souvent d'ailleurs de l'espace local, mais parfois on regarde plus haut et on voit la France entière quand les artistes dessinaient les cartes à l'occasion d'une exposition aux Archives nationales. Nous avons un monde qui se construit avec des choix artistiques et pourtant, un souci de véracité. Vraiment, ces cartes sont probantes, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des éléments du paysage qu'on retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, c'est facile à faire, il suffit d'y aller. Juliette Damasie-Rabineau, ces cartes correspondent souvent, on l'a dit, hein, à des procès. Donc, on a l'ensemble des textes qui sont liés à cette carte.
Oui, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chaque carte a une histoire propre et puis raconte une histoire. Alors, c'est souvent une histoire de procès. Et dans l'exposition, on a mis en valeur, par exemple, la carte de Castelferrus, qui est une carte faite en 1525. Pour une dispute entre les villages de Castelferrus et Saint-Aignan, aux environs de Castelsarrasin. Et Gaël Le Breton, qui a étudié cette carte, a pu s'appuyer sur un procès verbal de figure qui raconte, heure par heure, pourquoi et comment on a fait cette carte. Alors, c'est extraordinaire, parce qu'on voit comment le peintre a été recruté, puis ensuite, comment il visite les lieux avec les parties, et on voit comment chaque partie influence la représentation en demandant que soit représenté tel chemin, telle maison, tel hameau, pour en fait prouver son droit hein, face au juge. On a ainsi des argumentaires, des batailles qui se font sur les cartes, à propos des cartes. Et on a même parfois aussi des plusieurs figures qui sont faites, des sortes de contre-figures faites contre une première, parce que une des parties s'estimait lésée dans la représentation. Alors cela dit, ces figures judiciaires, ces cartes judiciaires, elles devaient être probantes, en effet. Et donc, pour s'assurer qu'elles aient une valeur judiciaire, on les faisait accorder par les parties. C'est-à-dire que les parties devaient dire, oui, nous sommes d'accord avec cette représentation est juste. Et à partir de là, donc, une fois que la figure était accordée, elle devenait un document d'expertise pour que les juges ensuite puissent trancher le conflit.
Là, on comprend bien sur une carte comment on peut fonctionner en mettant précisément où se trouve la chapelle, où se trouve la croix, où se trouvent les routes. Tiens, ici c'est mon village et là c'est le tien. Nous comprenons très bien. Mais ce sont des artistes également qui font ces cartes. Et vous, Camille Serchoux, vous êtes historienne de l'art. Quel regard vous portez sur cette création, souvent, j'imagine, laissée en marge de l'histoire de l'art? C'est pas considéré comme une œuvre d'art et pourtant c'est une création.
Bien sûr que non, exactement. Ça doit élargir, je crois, le domaine de l'histoire de l'art, parce que on voit le rôle social des peintres, on a étudié bien les grandes commandes, mais ce sont un travail pour la conversion d'une carte, c'est un travail de gagne-pain, c'est le quotidien du peintre. Alors j'espère que notre exposition va inspirer des chercheurs de mieux comprendre qu'un peintre avait un rôle important dans la gestion d'un territoire, soit municipal, soit ducal, soit royal.
Oui, d'ailleurs, il faut citer le nom de ces artistes. Il y a des artistes qui sont identifiés, c'est important, hein, Palissy et tant d'autres. Et donc, oui, c'est vrai que de temps en temps, pour gagner sa vie, on fait une petite carte vite fait. C'est bien loin des grandes commandes. Juliette Damasie-Rabineau, vous vouliez dire sur cet écho à l'artiste qui représente des cartes et surtout le regard que l'on a sur ces cartes où l'on oublie parfois que c'est un artiste alors que ces cartes restent des œuvres d'art. Vous les voyez aussi comme ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ces artistes ont fait preuve d'une grande inventivité. Par exemple, ils ont inventé la représentation à vol d'oiseau, la vue à vol d'oiseau qui aura un grand succès plus tard, qui sera faite aussi sous forme de plans imprimés. C'est finalement les artistes qui l'ont introduite Ils ont aussi utilisé quand même le plan au sol en mélangeant des éléments en perspective. Alors ça donne ce qu'on appelle un plan perspectif. Ils utilisent aussi toutes les possibilités que donne le dessin en perspective, soit en représentant les lieux depuis un point fixe. Et dans ce cas-là, on a parfois une vision à 360 degrés. C'est par exemple sur le plan assez extraordinaire de Strasbourg du milieu du XVIe siècle par Conrad Morand. Et puis parfois c'est l'inverse. Alors ils se mettent tout autour du lieu à représenter. Et puis on a une vision comme ça, on va dire centripète, hein, sur les lieux. Bon, donc c'est assez extraordinaire leur inventivité. Et puis je voulais revenir sur cette notion de rôle social de l'artiste. Ça c'est très intéressant. On voit que l'artiste est appelé en tant qu'expert de la représentation. Et donc l'artiste n'est pas seulement celui qui fait des œuvres pieuses, par exemple, hein, pour le décor des églises, c'est aussi un expert qu'on appelle parce qu'il va permettre de représenter les lieux au vrai. En plus, c'est l'expression qui est employée à cette époque-là. On parle de figures au vrai, hein, et qui sont même parfois attestées par des témoins, ce genre de choses. Alors, cela dit, on est historien et il faut rester prudent. Bien sûr, ces représentations ne sont pas des photos et des copies conformes, hein. Il y a le travail de l'artiste, son style, et puis aussi parfois des éléments entiers du paysage qui sont évacués. Donc il y a tout un travail, par exemple, si on veut, parce qu'on peut le faire de la reconstitution du paysage bâti ou rural à partir de ces cartes, il y a tout un travail de croisement avec d'autres sources pour s'assurer quand même de la validité de la représentation.
Ce dont on est sûr, c'est que c'est une représentation du monde. À ce moment-là, c'est ainsi en tout cas que l'artiste a voulu le représenter, mais ce n'est pas le monde réel, c'est une lecture particulière d'un paysage. Cette notion de paysage est au cœur de l'exposition. Et puis, dans ce jeu entre le contemporain, nous aujourd'hui, et ces artistes du XIVe au XVIe siècle, il y a un écho évident. Nous comprenons ces cartes. Nous les comprenons très facilement, en fait. C'est vrai que le positionnement n'est pas une évidence. C'est vrai que le Nord n'est pas au Nord, n'est pas en haut, le Nord. Ça change énormément. Mais nous les comprenons très bien, ces cartes. En fait, les problèmes d'interprétation sont souvent en marge. Vous avez retrouvé ces cartes un peu partout en France. D'ailleurs, il faut qu'on en parle de ça parce que ces cartes sont extraordinaires, mais on en trouve partout en France. En les retrouvant, ça vous est arrivé d'être confronté à une impossibilité de lecture de la carte, a priori de celle que vous montrez rarement en tout cas?
Oui, alors on est aidé beaucoup par les documents annexes, hein, les documents de procès par exemple. Et puis c'est vrai que cette cartographie de l'œil, hein, on pourrait dire, elle est assez facilement compréhensible de manière intuitive. Et d'ailleurs même les enfants s'y retrouvent sur ces cartes. Elles sont, on les comprend assez facilement, même s'il y a quand même tout un travail de reconstitution du contexte pour lequel elles ont été faites, puisque le contexte, elles sont des commandes, hein, ces cartes, et donc le contexte de commande explique. Mais alors il y a parfois quelques mystères, hein, cela dit, il y a encore effectivement parfois des signes qu'on ne comprend pas très bien, et puis parfois aussi on ne comprend pas pourquoi l'artiste a représenté tel village et pas tel autre, voilà, donc il y a quand même parfois, oui, des mystères, mais c'est ça tout l'intérêt de la recherche.
Vous avez tout à fait raison, Juliette Dumazy-Rabineau, c'est ça aussi qui nous plaît, ce sont les mystères, et ces cartes viennent de partout, parce qu'il n'y a pas de lieu de concentration des cartes. On pense tout de suite aux cartes Zeppelin, enfin c'est institutions qui peuvent réunir des cartes. Non, mais là, en l'occurrence, nous sommes sur des cartes anciennes que l'on trouve partout, en fait, aux archives départementales, aux archives nationales, évidemment, dans toutes les bibliothèques. Vous avez été fouiné un peu partout. Comment avez-vous fait?
Bah oui, autant que possible. Alors, il y a 39 institutions prêteurs, parce que vraiment, ces cartes sont liées à leurs usages et pas, comme vous l'avez dit, une administration centrale. Alors, elles sont dispersées vraiment par toute la France.
Et il faut dire aussi que c'est la première fois qu'elles sont exposées ensemble, toutes ces cartes. On a une centaine de cartes qui sont présentées et qu'on a fait venir donc des archives départementales, de bibliothèques. Et c'est ça aussi la chance de cette exposition, c'est de les voir. Parce qu'habituellement, bon, elles ne sont pas exposées, bien sûr. Ce sont des documents fragiles, hein, sur parchemin, donc ils ne peuvent pas être exposés très longtemps. Et là, c'est aussi une belle opportunité de voir, en plus, ces documents qui font parfois, donc, qui sont de grandes dimensions et dont on a du mal à s'imaginer tout le côté extraordinaire quand on les voit en simple photo.
Oui, surtout qu'elle n'était pas faite pour être conservée pour un signe ostentatoire parfois, oui, mais le plus souvent, elles avaient une utilité pratique et par leur grand format, leur grande dimension, elles ont été souvent abîmées, roulées, rangées. Les ressortir est quelque chose d'exceptionnel, j'imagine, de bien difficile. C'est pas souvent que l'on peut construire une telle exposition.
Oui, et il y a tout un travail d'inventaire donc, qui a dû être fait, ça qui était un travail de longue haleine, et puis un travail de restauration aussi. Et puis on peut souligner aussi la qualité de la présentation, hein, puisque y a, les équipes des Archives nationales ont vraiment très bien travaillé pour pouvoir présenter ces documents dans les meilleures conditions. Donc c'est une chance de voir ces documents enfin aussi mis en valeur, parce qu'assez longtemps, finalement, ils ont été un peu oubliés. Bon. Il faut signaler aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus, hein, c'est vrai. Alors, cela dit, ceux qui ont été le mieux conservés, c'était les documents de justice, parce que, justement, ils pouvaient servir dans des procès, alors que, par exemple, les documents faits pour des raisons militaires ont été moins bien conservés, peut-être parce qu'on ne voulait pas que ça tombe dans des mains ennemies.
Ah oui, voilà, bah, toujours... Hein. La géographie, ça sert à faire la guerre. La carte, ça sert aussi à relire le monde et peut-être à faire la guerre. Et puis, il faut évoquer un aspect qui est toujours intéressant dans ces expositions-là. Dès qu'il y a des cartes, mais là, ça nous porte sur nous-mêmes. Nous allons voir les lieux que nous connaissons. Il n'y a rien de plus charmant que de retrouver une ville que l'on connaît bien, sauf qu'elle est représentée au XVIe siècle. Et on se dit, mais diantre, c'est exactement pareil. Merci beaucoup à vous deux, Juliette Dumazy-Rabineau. Merci à vous, Camille Serchuk. Donc l'exposition, c'est aux Archives Nationales à Paris, à l'hôtel de Soubise, quand les artistes dessinaient les cartes, vues et figures de l'espace français, Moyen-Âge et Renaissance. Et justement, nous restons à la Renaissance après cette respiration musicale pour retrouver une manière possible dans les séries de parler de Catherine de Médicis, de la Saint-Barthélemy et des derniers Valois.
A look too long could cause a disaster. We're no longer kids. Everything is weird. Everyone's got a job to talk about.
Michelle Blades qui chante Ring dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Jost. Bonjour à vous, Jérémy Ferrer Bartomeu.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université de Neuchâtel et au Centre européen des études républicaines de l'École normale supérieure. Vous êtes spécialiste de l'écrit politique pendant les guerres de religion. Et avec vous, nous allons parler d'une série, d'un projet de série.
D'un rêve de série.
D'un rêve de série, c'est encore plus joliment dit, sur Catherine de Médicis. Déjà, expliquez-nous, qu'est-ce que ce projet ou ce rêve ?
Ce rêve, c'est celui de Julien Tricard, de Lucien Productions, c'est le rêve de Jean-Marie Génard, qui est responsable de l'action pédagogique et culturelle des Rendez-vous de l'Histoire à Blois. C'est un rêve qui prend forme, qui prend place au Château Royal de Blois, où nous nous réunissons il y a quelques mois avec des historiens, des collègues, des amis, Jérémy Fora, Olivia Carpi, Marjolaine Boutet, Mathieu Gélard.
Il y a du monde,
parce qu'il y a de la matière. On se demande comment documenter, comment écrire une série sur Catherine de Médicis, sur le génie politique, comme le dit très bien Denis Crouzet, sur le génie politique qu'elle fut. Et on commence à travailler avec des scénaristes, on commence à imaginer une série avec des producteurs, on commence à imaginer un diffuseur aussi, Arte ou France Télé, et très vite, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire, et que nous sommes sur un trou noir de l'historiographie, un trou noir de l'histoire de France, la Saint-Barthélemy. C'est oui. Ce sur quoi on arrive.
Voilà, c'est ça, hein. C'est le moment 16e siècle, que l'on réduit souvent aux guerres de religion, alors que le moment 16e siècle est beaucoup plus complexe. Il y a cette figure qui est évoquée, celle de Catherine de Médicis, personnage incroyable, Catherine de Médicis. Cela suffit d'avoir un personnage pour faire une série ?
Ça sera, si vous voulez, notre fil rouge, car nous allons finalement essayer de reprendre le dossier Catherine de Médicis à travers celui de la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, en deux mots, nous sommes le 24 août 1572 et la nuit va être terrible. La nuit et les quelques jours qui vont suivre vont être terribles puisque des milliers de protestants vont être assassinés dans les rues de Paris. Dans les rues de Paris également, dans le royaume de France, puisqu'il n'y aura pas qu'une seule Saint-Barthélemy, il y en aura plusieurs, malheureusement. C'est un événement traumatique. Très rapidement, le pouvoir royal décide d'assumer ce crime d'amour, comme le dit Denis Crouzet, d'assumer, car il y a en effet un chaos qui saisit la ville de Paris sous l'autorité du roi. Les guisards, les miliciens massacrent les protestants venus pour le mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. Que s'est-il passé ? Eh bien, on va mener l'enquête.
On regardera la série, puis on peut lire les ouvrages. Vous avez cité par deux fois Denis Crouzet, un historien que nous avons reçu ici dans le cours de l'histoire. Denis Crouzet qui s'est intéressé évidemment à sa matière, ce 16e siècle incroyable, qu'il a appréhendé par la notion de violence. Et c'est vrai que souvent, dans une synthèse assez simpliste, le 16e siècle serait celui de la violence. Est-ce que c'est si violent que cela ?
Alors, pour comprendre l'œuvre de Denis Crouzet, parce qu'il s'agit bien d'une œuvre, moi ça a été mon maître, si j'ose dire, puisqu'il a dirigé mon master, il s'est intéressé à la violence dans Les Guerriers de Dieu, une œuvre majeure, il s'est intéressé à la Saint-Barthélemy, bien évidemment, mais il s'est aussi intéressé au génie politique qu'était Catherine de Médicis, dans un très beau livre que je recommande à vos auditeurs, Le Haut Cœur de Catherine de Médicis. Il a essayé de montrer comment est-ce que Catherine, et évidemment Charles IX et Henri III, ses fils, tentent de faire l'union des contraires, tentent dans une technique politique néo-platonicienne de réunir les contraires, catholiques et protestants, en faisant de la politique, en permanence. Et donc nous voulons également reprendre ce très lourd et très bel héritage que Denis Crouzet nous livre dans cette série, pour montrer que non, Catherine de Médicis n'est pas une Italienne intrigante qui empoisonne tout le monde, non, Catherine de Médicis n'est pas une intrigante politique qui, de cour en palais, stipende des assassins, non. Elle fait de la politique et elle tente en permanence de restaurer la paix. Et elle le fait par l'écrit politique, elle le fait par la négociation, par le colloque, notamment le colloque de Poissy, avec Michel de l'Hôpital. Et donc, tout ça, c'est très compliqué à montrer dans une série télé. Donc, il va falloir que nous trouvions une narration qui permette aux spectateurs de nous suivre et de suivre ces débats très compliqués, car nous en parlions ensemble hors antenne. La Saint-Barthélemy est un gros problème historiographique. Dans les années 90, je ne sais pas si les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent s'en souviennent, mais il y a un combat entre Denis Crouzet, encore une fois, et d'autres historiens. Que s'est-il passé ? Pourquoi il y a ce massacre ?
C'est quoi ce combat ? Rappelez-le nous.
De manière très très rapide, Denis Crouzet imagine, puisque nous n'avons pas forcément l'ensemble des sources, Jérémy Foy est en train d'écrire un très beau livre sur ce qu'il s'est passé, une histoire par le bas de la Saint-Barthélemy grâce aux archives notariées. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc il faut l'interpréter, et l'interprétation en histoire est toujours compliquée. Nous allons l'interpréter par la fiction, ce qui pose également problème. Est-ce que nous n'allons pas rajouter de la confusion à la confusion, de la confusion à des choses qui ne sont pas forcément toutes avérées? C'est un problème. C'est le problème également de Patrice Chéreau. C'est le problème d'Alexandre Dumas quand il écrit La Reine Margot. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'on massacre autant de monde, 4000, 10 000 personnes, dans les rues parisiennes et les rues du Royaume de France?
Oui, parce que dans ce débat, vous évoquiez, Jérémy Ferrer-Bartomeu, un héritage, héritage des historiens, héritage des polémiques dans lesquelles s'inscrit un film, celui, vous l'avez dit, de Patrice Chéreau. Ce film, c'est La Reine Margot, nous étions en 1994.
Ils vont se venger. Ici, en ce moment même, dans la chambre du paysan, ils préparent un carnage chez les
civils. Je fais une enquête, moi, je fais l'assassin.
Tu les as vus, ils sont ivres de haine. Tu les as entendus, ils viennent nous insulter.
Ils attaqueront le Louvre en premier.
Ils vous tueront tous. Vous, votre frère, votre sœur.
Ils vont nous massacrer, tu entends? Ça fait des semaines qu'ils rassemblent des hommes et des armes. Ils vont les retourner contre
mais
nous.
Mais moi aussi j'ai des armes, moi aussi j'ai des hommes.
Ils sont des milliers. Ils sont contents de nous montrer leur force. Là maintenant, ils vont s'en servir.
C'est mon père, j'ai juré de faire justice.
Arrête de l'appeler ainsi. Ton père, s'il était ici, saurait ce qu'il faut faire. Ton père savait qu'on reconnaît un roi au bien et au mal qu'il sait faire. Mets toutes tes forces de roi incapable au service de la justice. Tu plongeras ton royaume dans la ruine. Quand j'ai fait tout ce que je peux pour le redresser. Toute la sale besogne depuis que ton père est mort. C'est moi. Oui, c'est moi, moi qui l'ai faite.
La Reine Margot, un film de Patrice Chéreau en 1994. Dès qu'on évoque le XVIe siècle, nous pensons aux guerres de religion. Et comme nous contextualisons toujours la chose, aujourd'hui, parler de cette période-là évoque notre monde. C'est vrai que cette notion de violence ultime liée à la guerre de religion nous parle à nous. Cela est pris en compte quand on réfléchit à un projet de série sur Catherine de Médicis, la Saint-Barthélemy et plus globalement ce XVIe siècle. Jérémy Ferrer-Bartomeu.
Évidemment, évidemment, Xavier Mauduit. Quand on travaille, quand on est historien du XVIe siècle, historien des guerres de religion, on ne peut pas passer à côté de l'actualité terrible, des attentats, des tentatives de division des Français les uns contre les autres. On y pense beaucoup. Comment est-ce que les hommes du XVIe siècle et comment les femmes, Catherine de Médicis, au XVIe siècle, sont sortis de ce cycle de violence insupportable? Comment est-ce que la Saint-Barthélemy a été finalement un échec pour le camp catholique ultra? Bien. On s'interroge, ils sont sortis par la politique. L'édit de Nantes, en 1598, on rappelle, hein, qui met en place une tolérance prise par Henri IV, roi de France depuis 1589, puisqu'il succède à Henri III, c'est un changement dynastique. Henri IV réussit par la politique, par l'écrit politique, à sortir par le haut de ces guerres de religion qui déchirent le royaume de France depuis près de 40-50 ans. Avant, le royaume de France est bien évidemment labouré par les guerres, les compagnies de gendarmes qui passent. Ce sont les guerres d'Italie, ce sont des conflits incessants aux marges du royaume. Ben, on sort par la politique. Catherine de Médicis l'a bien compris. Elle tente d'abord de réunir les théologiens et puis très rapidement émerge une classe, même si le mot n'est pas très bien choisi, une classe de gens qui sont attachés au service de l'État et de la République. Il ne faut pas oublier que ces guerres de religion sont le chaudron de la raison d'État, sont le chaudron de la monarchie administrative. C'est en 1576 que Jean Bodin écrit ses 6 livres de la République, où il met en place une souveraineté royale, absolue. C'est à ce moment-là que ces choses-là se passent. Donc, c'est pas dans les choses, ce n'est pas dans les souliers rouges de Louis XIV que se met en place l'étiquette et la raison d'État et la monarchie administrative. C'est au moment où l'État est contesté. C'est au moment où la légitimité du roi est contestée. C'est au moment où les protestants, puis les catholiques, considèrent qu'il est légitime d'assassiner le roi quand il se comporte comme un tyran et qu'il ne respecte plus les lois divines. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a une théorie politique, une pratique politique qui se met en place, qui vont permettre justement de sortir par le haut de ces divisions religieuses. Olivier Christin l'a très bien montré dans un très très beau livre, La paix de religion, l'autonomisation de la raison politique. La paix de religion, c'est ça. Parce qu'on fait la guerre, mais on fait de manière continue et continuelle la paix. On prend des édits de paix, de pacification. Jérémy Foix, lui, son élève, a travaillé sur les commissaires de l'édit, qui sont des partis dans le royaume, afin justement de faire appliquer et respecter ces édits. 1598, c'est le terme final de ces guerres de religion du XVIe siècle. Il y en aura encore trois au XVIIe siècle, mais c'est le terme final, et l'édit de Nantes reprend pratiquement terme à terme les différentes dispositions des édits précédents.
Alors ça, c'est important de le souligner, Jérémy Ferrer-Barthomeu, vous mettez de côté Louis XIV et ses petites talonnettes rouges, mais on a presque envie de dire, mettons aussi de côté Henri IV et sa poule au pot, c'est-à-dire que les derniers Valois qui sont décriés, mais vraiment de tous les côtés, c'est-à-dire que l'on est tributaire même de la propagande du XVIe siècle qui les présente comme une dynastie finissante dans le stupre, ces derniers Valois ont en fait déjà réfléchi à la paix, la pacification et à la construction de l'État. Vous les aimez bien, ces Valois?
Bien sûr, bah là, vous me lancez sur un sujet que j'aime beaucoup, voilà, dire du mal d'Henri IV. Bon, je pense que les collègues qui nous écoutent ne seront pas forcément très contents, mais non, je ne vais pas dire du mal d'Henri IV, c'est un génie politique, évidemment. Il forme avec Henri III, avec Henri de Guise, une même génération. Ils sont nés dans le début des années 1550, ils ont été élevés pour partie ensemble, ils se connaissent très bien et extrêmement bien. Ce que dit Catherine de Médicis dans l'extrait qu'on vient d'écouter.
De la reine Margot.
C'est très intéressant. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses comme ton père. Si ton père était là, il sait ce qu'il devrait faire.
Son père, c'est Henri II.
Son père, c'est Henri II. C'est à la fois le dernier grand roi chevalier qui meurt au Tournelle dans un tournoi où il prend un éclat de lance dans l'œil. C'est un moment terrible. C'est la fin d'un monde. C'est le basculement d'un monde pour Catherine de Médicis, pour ses enfants, pour le royaume de France. Il meurt en 1559. Les guerres de religion commencent officiellement 3 ans plus tard. Donc, évidemment, c'est la fin d'un monde. Mais c'est un génie politique. Il institue, par exemple, et on le sait mal, les secrétaires d'État. C'est lui qui met cette nouvelle institution en place auprès de lui. Henri III, on le sait également mal, c'est lui qui met en place de nombreux règlements de police de cour. Henri III, par exemple, je donne un exemple très très trivial, ne mange pas avec la grande noblesse. Les grands nobles sont très embêtés. Nicolas Leroux l'a bien montré. Ils sont très embêtés parce que normalement, manger avec le roi, ça signifie qu'il y a une proximité, qu'il y a une amitié et qu'on peut justement lui demander des services et qu'on peut faire du courtage, qu'on peut demander des places, des charges. Henri III dit non, moi je ne mange plus avec vous. C'est lui qui met en place l'étiquette de cour. C'est pas Louis XIV, c'est pas le petit souper. Voilà, c'est Henri III. C'est en pleine guerre de religion, on réfléchit à l'étiquette de la cour. C'est des éléments majeurs en réalité.
Alors vous démontez, Jérémy Ferrer-Barthomeu, des images que nous avons et vous faites votre travail d'historien. Mais au moment de construire une série autour de la Saint-Barthélemy, autour de Catherine de Médicis, évidemment, vous êtes tributaire de toutes ces images du passé où ces personnages, et Catherine de Médicis notamment, ont été mis en avant. Exemple, en 1957, dans une émission intitulée « Heure de culture française » sur la radiodiffusion française, voici Catherine de Médicis.
Le règne de Catherine de Médicis commence. Comme elle l'a attendu ce jour avec la sublime patience des obstinés, de ceux que rien ne rebute et qui croient malgré tout. Elle s'est élevée à pas compter, regardant les obstacles, comptant les pierres du chemin sur lesquelles les impatients trébuchent. Le cadavre de son enfant de 16 ans est là, tout proche, en ce lendemain tragique, et elle pense au pouvoir, à la régence que lui donne la minorité de Charles IX. Aurait-elle des larmes que sa passion politique les assécherait aussitôt? La partie qu'il va lui falloir jouer est rude. Les conditions dans lesquelles elle prend le pouvoir sont difficiles. Tandis que les médecins ouvrent le corps du petit roi mort, discutant doctement de la posthume ou du catarrhe, elle compte ses amis et montre du doigt ceux qu'elle a condamnés.
C'est une vision très particulière en 1957 de Catherine de Médicis, une magnifique vision intéressante, hein, parce que il y a ces deux aspects, c'est-à-dire la reine prête à tout, l'italienne, et là on est vers Machiavel.
Bien sûr, et on l'entend dans l'extrait de Chéreau que vous avez passé juste avant, elle a un accent italien. Bon, c'est une légende, la maison d'Auvergne, en effet, elle part d'Italie quand elle est très très jeune, avec des événements assez traumatiques d'ailleurs. Mais non, elle n'a pas un accent italien.
Et donc, dans cet extrait, là où l'on voit en fait ce visage très sombre de Catherine de Médicis, on voit pointer malgré tout, et on ne peut pas s'en départir, et tant mieux sans doute, sa qualité politique. Alors, dans la volonté de construire une série autour de Catherine de Médicis, c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. La femme politique.
La sublime patience des obstinés, c'est ce qu'on entend dans cet extrait. Ça pourrait, je pense que les producteurs et les scénaristes ne seront pas d'accord avec moi, mais la sublime patience des obstinés, quel titre pour cette série. C'est évidemment ce que nous allons mettre en avant. Je vous donne un exemple que les auditeurs pourront comprendre afin de visualiser ce que nous voulons faire. On veut faire quelque chose au croisement d'House of Cards, que vous avez sans doute vu, et de The Wire.
Donne quoi ce croisement?
Alors ce croisement, nous allons documenter à la fois la très grande noblesse et le conseil restreint qui se réunit le 24 août au soir au Louvre.
Avant la Saint-Barthélemy, on imagine la scène.
C'est absolument magnifique. Et en même temps, nous allons, comme dans The Wire, tenter de comprendre comment est-ce que la Saint-Barthélemy est pensée et a un impact sur les aspects territoriaux, économiques, sociaux de ce royaume de France en proie aux guerres civiles de religion. C'est les deux qu'il faut tenir. Donc c'est complexe. Alors, les scénaristes ont eu une très très belle idée, celle de payer ce lourd tribut que nous avons aussi au nom de la Rose, afin de charger des enquêteurs, un médecin, un milicien de la milice bourgeoise de Paris, créé en 1562, puisque Paris se défend elle-même, et une femme de l'escadron volant qui appartiendrait à Catherine de Médicis. Et donc ces deux, trois enquêteurs, dont une enquêtrice, vont se balader dans Paris afin d'enquêter pour Catherine de Médicis, savoir ce qu'il s'est véritablement passé. Ils vont faire exactement ce que nous faisons aussi quand nous sommes dans les archives, essayer de savoir ce qu'il s'est passé. Et on va emmener le spectateur avec nous par la main dans les rues de Paris. Ça va commencer comme un film de zombies. Hein. On sort de chez soi, on est le 25 au matin. Vous sortez de chez vous, vous avez un rendez-vous, vous devez aller voir le notaire, par exemple, un très cher à Jérémy Fauard. Eh bien, devant votre porte, il y a des corps de protestants, lardés de coups de couteau, qui sont morts. Que s'est-il passé?
Jérémy Ferrer-Bartomé, on comprend bien dans la volonté de faire une série autour d'un sujet particulier qui est le vôtre, de porter un regard d'historien, c'est très bon parce que ça permet de diffuser le savoir, même sur une période qu'on connaît pas, le goût en tout cas d'étudier cette période, mais sur une période qui a été tellement lue et relue, et donc toutes les images sont inversées, une période qui a fait polémique, on l'a dit dans les années 90, des débats d'historiens, j'ai envie d'être un peu provocateur. Qu'est-ce que ça peut apporter en plus que le plaisir de revisiter? Ça vous oblige à faire une lecture, on va dire, mettre un peu les choses à plat, l'état de l'historiographie aujourd'hui?
C'est très compliqué, puisque les scénaristes ont comme objectif de faire de la télé. Et nous avons comme objectif de passer les derniers éléments de la recherche, comme vous l'avez dit. Donc, moi, je suis parfois, quand nous sommes en réunion, quand je discute avec eux, horrifié par tel ou tel traitement. Il me dit, mais voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on fasse de la télé. Moi, j'essaye de demander à ce que, par exemple, le duc de Guise soit un peu plus responsable quand même que Henri d'Anjou, qui sera Henri III, de la Saint-Barthélemy. Voilà, on discute, on fait en permanence des compromis, et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse donner aux téléspectateurs. On fait comme Catherine de Médicis, en réalité. On fait en permanence des compromis. Les historiens veulent qu'il y ait des trésors d'érudition dans cette série, et les scénaristes veulent que ce soit une série, que ce soit de la télé. Donc, il faut toujours qu'on arrive à s'entendre.
Oui, ben voilà, c'est un compromis. Merci beaucoup Jérémy Ferrer-Bartomeu, avec toujours cette idée que quand on a 15 ans, on va plus souvent vers la série, donc autant qu'elle soit bien faite, plutôt que de lire, avec tout le respect que je dois à Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu.
Évidemment, Les Guerriers de Dieu, c'est très long, c'est très beau, il faut le lire, mais cependant, en effet, on peut entrer dans ce cycle-là comme cela. Et moi, je pense surtout aux collègues du second degré. Je pense que ça sera vraiment très intéressant pour les élèves en 5e, 4e et en seconde de pouvoir voir cette série qui sera une série relativement bien faite pour les collègues du second degré.
Ben nous sommes impatients. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, l'actualité de l'histoire sur le web avec une nouvelle chaîne YouTube.
Oui, c'est Amandine Marshall, archéologue de métier, qui lance la chaîne Tout en Catube. Le premier épisode est d'ores et déjà en ligne.
Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va se retrouver avec des bouts de cadavres éparpillés un peu partout. Mais cela va forcément avoir un impact sur la conservation du corps et sur sa position, à l'air libre ou dans sa tombe.
Alors, Amandine Marshall répond à la question « Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser ?»
Oups.
Amandine Marshall applique les recettes élémentaires de la course au clic sur le net. Mais si le titre est outrancièrement aguicheur, la réponse est solidement documentée et collective, puisqu'elle s'accompagne des noms d'archéologues dont les travaux permettent de répondre à la question de manière scientifique. Je vous laisse découvrir la vidéo, mais il y a bien sûr question d'embaumement et de bandelettes, d'éviscération et d'onguents nécessaires à la bonne tenue de l'enveloppe corporelle des classes supérieures égyptiennes de l'Antiquité. Tout en Catube promet un épisode par mois pour partager l'état des connaissances archéologiques, mais également pour démonter les fausses vérités qui pullulent sur l'Égypte ancienne.
Il y a énormément de mauvaises informations qui circulent sur le web, de façon générale, et c'est vrai que l'Égypte antique est vraiment une source de fantasmes pour beaucoup de gens, et donc on raconte tout et n'importe quoi, et souvent un peu trop n'importe quoi. Alors en tant qu'égyptologue, moi mon travail c'est de faire de la recherche, mais j'estime que mon autre travail qui est très important et puis qui est passionnant à faire, c'est justement de porter cette recherche devant le public.
Si la fake news égyptomaniaque est si présente, cette passion pour les mystères a une histoire très longue. À commencer par ses voisins et envahisseurs, malgré le déclin politique de l'Égypte, ses voisins et contemporains grecs et romains admirent le raffinement égyptien. Au XIXe siècle, l'Europe transforme cette égyptophilie en égyptomanie. Les morceaux de momies plus ou moins authentiques sont parés de vertus guérisseuses, on organise des soirées de débandelettage de momies, les rues du Caire et les formes pyramidales s'installent dans l'espace public des grandes métropoles et les apprentis archéologues se lancent dans l'exploration des sites historiques en rêvant de découvrir les tombeaux et leurs trésors. Les ancêtres d'Indiana Jones s'installent pour longtemps dans la représentation de l'ésotérisme exotique des anciens pharaons. De Théophile Gautier à Woody Allen, l'Égypte ancienne devient un territoire d'aventures romantiques et littéraires.
You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. I gotta speak to you.
You mean me?
Ce tropisme égyptomaniaque se développe particulièrement chez nos voisins britanniques. Pourquoi l'Égypte fascine-t-elle autant les écrivains de l'Angleterre victorienne ? Pour Nolwenn Coryou, auteur de la thèse « Le retour de la momie, du gothique impérial au roman archéologique britannique 1885-1937 », cette égyptomanie coche toutes les cases de l'anxiété qui travaille la société victorienne d'alors. La momie en tant que cadavre ambulant sublime la déstabilisation frémissante de l'Empire britannique en perte de vitesse. Tandis qu'en métropole, l'ordre social victorien se fissure sous les coups des revendications syndicales et des suffragettes. On joue à se faire peur, sans oublier la dimension sexuée qui agrémente bien sûr les récits de fiction. Le mâle blanc archéologue et conquérant s'affronte à toutes ses failles dans sa rencontre avec la momie féminisée qui trouble ses certitudes occidentales et coloniales. Un cocktail idéal pour un fantasme inépuisable.
Merci beaucoup Anaïs Quien pour ces momies sur l'actualité de l'histoire, des informations que l'on retrouve avec les liens utiles sur la page du journal de l'histoire sur franceculture.fr. Anaïs, à très vite dès la semaine prochaine pour la suite des aventures. Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille Andréa-Lys Rouet ont préparé cette émission avec aujourd'hui à la technique Jean-Guy Lamège et Jean Frédrix. La semaine prochaine, nous poursuivons nos aventures avec l'or noir. Pour les uns, plutôt celui qui est au cœur de toutes les pollutions, le pétrole. Des émissions à réécouter en ligne sur le site du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis nous nous retrouvons sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire.